Conflits, traumatismes secrets, les événements vécus par vos ancêtres peuvent avoir une influence sur votre vie et votre santé aujourd'hui.
C'est en tout cas ce que soutient la psychogénéalogie, une thérapie développée dans les années 70-80 par la psychologue française Anne Ancelin-Schützenberger.
Alors en quoi est-ce que ça consiste? Est-ce que ça marche? Et si oui, comment? C'est ce qu'on va voir avec notre invité, le médecin et psychothérapeute Jean-Claude Fageot. Bonjour.
Bonjour.
Vous pratiquez au centre Philae, un centre de psychobiogénéalogie à Bienne. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont La maladie, un deuil inachevé ou encore Chemin de vie, chemin de guérison. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la psychogénéalogie?
Alors, vaste programme.
On a le temps.
On a le temps, d'accord. Bon, moi j'étais médecin généraliste et puis après je me suis spécialisé de plus en plus. J'ai une formation scientifique et en même temps je me suis toujours passionné pour tout ce qui était psy, psycho quelque chose, etc. Et il fallait que je trouve le moyen d'associer un peu les deux, mon côté scientifique et le côté psy qui paraît pas toujours scientifique. Et en fait, je cherchais depuis tellement longtemps le pourquoi les choses arrivent. Et en médecine classique, je n'avais pas les réponses. Alors, en me penchant vers la psy, je commençais à trouver des réponses, mais ce n'était pas encore tout à fait ce que je cherchais, puisque moi, depuis tout petit déjà, je m'intéresse au pourquoi des choses, et je, sans arrêt, le pourquoi. Et petit à petit, comme ça, j'ai rencontré des personnes dans des groupes d'homéopathie, de médecine chinoise, d'ostéo, de phyto, et de psy, évidemment. Et je suis tombé donc sur effectivement les travaux de Madame Schützenberger, et puis de Morano, et puis de Jodorowsky. Et ça devenait une évidence qu'on pouvait faire le lien entre les deux cerveaux. Le côté plus analytique et le côté plus romantique, on pourrait dire, etc. Et effectivement, cette personne, Anne Ancelin-Schützenberger, a montré, avec des tas d'exemples à l'appui, hein, puisqu'elle a fait ça toute sa vie, qu'effectivement, les traumatismes, les événements, les drames de la généalogie avaient une répercussion à chaque génération. Et c'était des constatations de comment on pouvait passer certaines informations. Et il fallait trouver le moyen, effectivement, de passer le relais à la génération suivante. Et avec des multiples exemples, on peut le prouver assez facilement, puisque la psychogénéalogie fonctionne, on va dire, avec des lois et non pas des statistiques.
Mais justement, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer qu'un traumatisme, que des secrets se transmettent d'une génération à l'autre? Parce que, j'allais dire, on ne va pas les transmettre de manière réellement orale. Il y a un passage, un flux un peu discret, un peu caché, qui fait passer ces choses-là d'une génération à l'autre.
Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas vous faire la conférence ici à l'antenne, parce que sinon, il n'y aura personne à la conférence le 10. Mais c'est assez subtil. En fait, les grands traumatismes, puisque c'est ça qui embarrasse notre vie, pour tout ce qui va bien, on nous a transmis essentiellement beaucoup, beaucoup de positifs dans notre vie, parce que, quoi qu'il arrive, il s'est passé beaucoup de choses positives dans la vie de nos ancêtres aussi, même s'il y a eu certains traumatismes, certaines difficultés de vie, voire des drames. Et bien sûr, ce sont surtout les drames qui sont importants. Et moi, j'ai examiné plus de 2000 arbres généalogiques depuis plus de 15 ans maintenant. Et effectivement, il n'y a pas une famille où il ne s'est pas produit des drames. Par exemple, des drames, c'est quoi? Un drame, c'est un drame qu'on appelle un drame biologique et non pas un drame psychologique. Par exemple, la différence entre les deux, à une époque, quand vous regardez le film Les Misérables, la pièce de Victor Hugo, le livre, ben vous avez Fantine, la mère de Cosette, qui était fille mère, etc. Pour l'époque, c'était un drame, soi-disant. En fait, ça n'est pas un vrai drame qui va créer un traumatisme qui va se transmettre, puisque c'était un drame psychologique. La preuve, c'est qu'actuellement, dans nos sociétés, être fille-mère, ça ne se dit plus d'ailleurs. Ce sont des mères célibataires et ce n'est plus un problème. C'est un non-événement. Donc, un vrai drame biologique, par contre, on en trouve dans beaucoup de familles. C'est par exemple la mort de bébé à la naissance, ou enfant, ou la mort de jeunes gens à 15 ans, 12 ans, etc. Et puis, comme je le prends souvent en conférence, une femme qui meurt en couche en accouchant du deuxième ou troisième enfant à 30 ans, 35 ans, ça, ce sont des vrais drames parce qu'il va y avoir des conséquences. Donc, sur les conséquences, comment faire passer le message, hein, parce que c'était votre question, ces drames, ces traumatismes vont créer des peurs. La peur que ça recommence. Parce que ça devient une réalité pour une famille quand quelqu'un a vécu un drame d'un enfant qui meurt à la naissance ou à 2-3 ans dans un accident, c'est un drame pour une famille, c'est terrible. Et comment faire passer cette peur ? S'il a été renversé par une automobile, même s'il y avait très peu d'automobiles il y a 4 ou 5 générations, mais ça pouvait être un accident de cheval, un accident de n'importe quoi, de la route, ça risquerait de pouvoir se reproduire. Ce sont des lois. Ça risquerait. Donc, dans cette famille, ça va créer une peur. La peur qu'un enfant se fasse renverser et en meure. Et cette peur, petit à petit, elle va passer dans l'inconscient dans les familles. Et non pas dans le conscient, parce que ce n'est pas des anniversaires qu'on aime fêter, célébrer régulièrement. Donc c'est cette peur qui va passer, qui va se diluer petit à petit dans l'inconscient familial. Et c'est comme ça qu'on ne sait pas pourquoi on a peur de ceci, pourquoi on a peur de cela. Et donc tout le but, c'est de remonter effectivement à partir de cette peur jusqu'à ce drame, à ce traumatisme. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des comportements liés à des peurs. Tout ça dans un seul but qui est positif, finalement, la peur. C'est d'empêcher ce drame de se reproduire.
Qu'est-ce qui explique le plus les troubles que vont ressentir les générations suivantes ? C'est cette peur ou c'est le fait que souvent, ces événements traumatiques soient entourés d'un secret ? Puis ce sont des choses, ben vous le disiez, hein, la mort d'un enfant en bas âge, ce n'est pas quelque chose qu'on va célébrer, donc ça reste un petit peu secret. La notion de secret, elle est importante ?
Oui, tout à fait. Évidemment, pour un enfant, moi j'ai vu des enfants, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de ce qu'on appelait des filles-mères à l'époque, c'était pas tellement le fait qu'elles soient filles-mères qui est un drame psychologique, mais c'est les conséquences sur l'enfant, qui était appelé à l'époque un bâtard, et que souvent la mère était obligée d'abandonner soit dans un couvent, à la porte d'une église, ou le placer dans un orphelinat, parce qu'il rentrerait jamais dans une famille. Et tout ça, ça crée des peurs.
Découvrir l'existence d'un trauma, d'un conflit dans le vécu de nos parents, de nos grands-parents, c'est une chose. Alors bon, bah, Jean-Claude Fajot, c'est trop tard pour le résoudre chez eux. Comment est-ce que ça soigne chez nous ?
Alors, ceux qui connaissent depuis longtemps savent que je ne réponds pas à la question du comment. Mais ce qui est important, c'est le pourquoi des choses. Et non pas le comment. Vous avez peut-être tous remarqué, dans la vie quotidienne, que quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on se pose beaucoup la question du comment faire. Mais en fait, dès qu'on est motivé et qu'on sait pourquoi on fait les choses, le comment, il devient tellement évident. Ça se trouve tout seul. Donc effectivement, la question que les gens doivent se poser, c'est pas comment on fait pour guérir, par exemple, c'est la question qui m'est souvent posée, parce qu'une fois qu'ils ont compris, entendu des conférences, etc., alors comment on fait pour guérir ? Non, c'est posez-vous la question du pourquoi guérir ? Pour vivre quoi d'autre ? Je dis toujours que à chaque fois qu'il est arrivé, pas simplement des maladies, hein, même des troubles du comportement, des troubles dans la vie, des choses qu'on n'a pas envie de vivre, c'est qu'on est dans une mauvaise direction dans la vie. On n'est pas assez motivé, on n'est pas assez positif. Et ça s'appelle un conflit de direction, d'ailleurs, qui est vécu par la plupart des gens, qui se manifeste par de la fatigue, manque de motivation. Et dès qu'on retrouve cette motivation, la fatigue disparaît et les choses se mettent en place. Donc pour une maladie, c'est pareil. Si on a été malade, c'est qu'on a été sur une mauvaise direction de vie. La preuve, on en a des preuves avec des tas de gens qui ont eu des maladies, qui ont guéri spontanément. Parce qu'ils avaient changé quelque chose dans leur vie, quelque chose d'important. Donc c'est bien ce changement de direction qu'il faut opérer pour aller mieux, disons pour vivre mieux.
J'ai quand même une question qui commence avec comment. Vous pratiquez donc des études avec le patient sur les arbres généalogiques, vous retrouvez les vieilles archives, c'est des discussions. Le déroulement de la psychogénéalogie, finalement, c'est quoi ?
Sur une personne qui veut comprendre comment elle fonctionne, on commence par surtout faire connaissance et ensuite on travaille essentiellement sur ses regrets et sur les peurs. Un regret, c'est le signe qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait. Et ce deuil vient obligatoirement de la généalogie. C'est d'ailleurs le titre de mon premier livre, La maladie, un deuil inachevé. Et tant que ce deuil ne sera pas achevé, effectivement, ça continuera à se transmettre génération en génération, jusqu'à ce qu'on finisse par faire le deuil de cet événement qu'on peut retrouver grâce aux peurs révélées par le patient.
Est-ce que on peut parfois faire chou blanc en creusant la piste généalogique, la piste de nos ancêtres, et puis finalement avoir un problème de santé, qu'il soit physique ou psychique, qui n'a absolument rien à voir avec nos ancêtres?
C'est difficile de répondre à cette question parce que moi, sur ma série de plus de 2000 arbres, de plus de 2000 personnes que j'ai pu consulter en psychogénéalogie, j'ai toujours retrouvé l'événement traumatisant, le drame. Donc, je dirais, c'est du 100%. Maintenant, ceux qui ne viennent pas, je ne peux pas dire. C'est une réponse de Normand.
Donc, la psychogénéalogie, Jean-Claude Fageot, vous allez en parler un peu plus lors d'une conférence qui aura lieu, c'est le 10 février à 20h à l'Aula de la HEP Béjune à Port-en-Truy, dans le cadre de l'Université populaire jurassienne. L'entrée est à 15 francs. On va mettre cette interview sur le blog de l'émission Format A3 d'ici là. Et on vous remercie beaucoup d'être venu nous présenter cette thématique ce matin.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
À vous de même.
Merci.
Format A3 se termine à l'instant pour aujourd'hui. Évidemment, on va revenir demain avec dans nos valises quelques éléments carnavalesques, puisque le carnaval, ça commence le week-end prochain et puis qu'on va en parler un petit peu toute la semaine dans Format A3. Belle journée.
À demain.
À bientôt. A3, c'est plus sympa. Format A3.